Le nouveau baccalauréat à l'épreuve.
Être et savoir. Louise Touret.
Bienvenue dans le magazine de l'éducation et de la transmission des savoirs de France Culture. Nous sommes ensemble pour une heure. Et nous parlons du bac, bien évidemment, puisqu'il commence demain dans cette émission. D'abord, le bac philo. Le programme de philosophie va changer. Vous le savez, c'est la première épreuve que les élèves passent. En quoi consiste ce nouveau programme et surtout, comment a-t-il été élaboré? Parce qu'élaborer un nouveau programme du baccalauréat, c'est répondre à un certain nombre de questions. Et puis, en quoi va consister l'enseignement de la spécialité humanité, littérature et philosophie, spécialité que les élèves pourront prendre dès le mois de septembre en première. Nos invités seront Philippe Reynaud, vice-président du Conseil national des programmes, et Laurence Lacroix, professeur de philosophie à Orléans. Et puis, en deuxième partie d'émission, nous évoquerons la grève de la surveillance du baccalauréat demain. Des enseignants de lycée et Frédéric Rollet, secrétaire national du SNES, nous expliqueront pourquoi ils se sont mobilisés cette année et tentent ce bras de fer avec le ministre de l'Éducation. C'est Jamy Gourmaud, vous savez, l'animateur des émissions scientifiques « C'est pas sorcier ». Pour les adultes de maintenant qui s'en souviennent, et le monde de Jamy pour les enfants d'aujourd'hui, un vrai professeur de sciences pour des millions de petits Français, qui est l'invité de la leçon de choses de Sophie Bobert en fin d'émission.
T'es comment ? Toi, voilà ta tête, tu as pris le sujet numéro 1.
Bien sûr. C'est en fait, si je tombe sur un sujet, c'était facile de mentir, c'était le désir. Si on peut toujours savoir ce qu'on désire. C'est-à-dire, moi j'avais appris un peu le désir, tout ça, c'est-à-dire il y a des citations, tout ça. Mais vas-y, je faisais que de mentir un peu, je sortais des exemples, des trucs comme ça.
J'ai fait thèse, synthèse, antithèse, on dit oui, on sait toujours ce qu'on désire parce que on se connaît, donc on sait ce qu'il faut pour nous. Et en deux, j'ai dit quoi Et en deux, j'ai dit non, c'est pas parce que on subit le déterminisme de la société, donc j'ai dit ça. J'ai parlé genre, j'ai dit Andy Warhol, société de surconsommation. J'ai dit quand les pubs ils nous font passer nos des objets, genre ils font tout pour qu'on en ait grave besoin. J'ai parlé de Karl Marx.
Dans ma tête, c'était jamais je vais faire 4 phrases, ça c'est impossible, je peux pas faire 4 pages sur de la philo, on te passe une phrase, tu dois faire tout ça. Et franchement, j'étais content de moi, là. Je te jure, j'étais content de moi. J'ai fait 4 pages, j'étais grave heureux. Et même si j'ai 4, c'est pas grave, j'ai fait 4 pages.
Ce sont des élèves qui sortent de leur épreuve de philo. C'est un extrait du beau film de Mathieu Va-de-Pied et du sociologue Fabien Truong. Un film qui suit donc des élèves de terminale du lycée Paul-Éluard à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, avant et après le bac, et des dialogues entre ceux qui vont passer le bac et ceux qui sont déjà jetés dans les études supérieures. Ce film sera diffusé sur France 3 dans l'heure D en troisième partie de soirée le 1er juillet et aussi en replay. Et c'est un partenariat France Culture. Mathieu Truong sera dans les premiers matins de cet été avec Olivia Gesbert le 1er juillet. On va donc parler de philo dans cette première partie de l'émission. Je vais tout de suite saluer nos invités. Philippe Reynaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du Conseil supérieur des programmes, le CSP, professeur de philosophie politique à l'Université de Paris 2, Panthéon, Assas. On va donc essayer de comprendre avec vous comment on conçoit un programme de philosophie. Laurence Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie en terminale au lycée Voltaire à Orléans. Vous avez tenu à me préciser que ce n'était pas un lycée de centre-ville.
Exactement, c'est vrai.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on enseigne la philosophie?
Je crois que l'extrait que vous avez donné répond exactement à la question. Ça veut dire que on a des élèves qui au départ ne savent vraiment pas trop ce que va être la philosophie et sont peut-être aussi un peu rétifs quant à la question et qui au final peuvent véritablement se se passionner pour cette matière et donc tout notre travail c'est d'en montrer l'intérêt, de montrer ce que la philosophie peut leur apporter, comment ils peuvent aussi s'en saisir et comment ils peuvent grandir avec la philosophie. Et ça, c'est vraiment notre rôle, je crois, de manière extrêmement frontale, peut-être plus que dans des lycées de centre-ville où effectivement la famille intervient plus et où les élèves ont peut-être moins d'attente, je ne sais pas, mais en tout cas connaissent déjà l'importance un peu sociale que peut leur apporter la philosophie. Nous, il faut qu'on le fasse passer à nos élèves et du coup ça devient un beau métier.
Donc il y a aussi ça dans la transmission. Comment on conçoit des programmes, de nouveaux programmes de philosophie? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi renouveler des programmes? Est-ce qu'on enlève, est-ce qu'on ajoute des notions, Philippe Reynaud?
On a remanié l'ensemble des, pas simplement les programmes de philosophie, mais nous avons revu l'ensemble des programmes des lycées, tout simplement parce qu'il y a une réforme très importante des lycées qui est en cours, supprime les anciennes sections spécialisées, qui introduit des enseignements dits de spécialité autour duquel vont s'organiser les choix des élèves, et qui comprennent des disciplines ou des groupes de disciplines nouveaux. En l'occurrence, il y a dans ces nouveaux enseignements quelque chose qui s'appelle humanité, littérature et philosophie.
En première.
Donc, en première et en terminale, pour lequel il fallait faire un programme entièrement nouveau. Et entièrement nouveau est fondé sur la collaboration complexe des littéraires et des philosophes. Donc ça c'est une première raison, si vous voulez, pour il fallait faire de toute manière un programme ex nihilo, à partir de rien. Et d'autre part, étant donné que le lycée est profondément remanié, on ne pouvait pas laisser les programmes des différentes classes, y compris des terminales, en l'état, puisqu'il n'y a plus les différentes sections.
Donc c'est un programme pour tous les élèves lycée général.
Alors il y a un programme pour les élèves de lycée général et un programme pour les élèves de la voie technologique du lycée.
Et qu'en est-il des expérimentations en voie professionnelle, parce qu'il y en a eu par le passé?
On n'a pas eu de demande. Il nous a semblé que, pour différentes raisons, dont on va avoir l'occasion de parler, il valait mieux s'en tenir plutôt à ce qu'on pourrait appeler une liste sèche de notions, alors qui sont classées par ordre alphabétique précisément parce que c'est un ordre qui, sans être arbitraire, laisse le plus de liberté possible aux professeurs, et c'est le choix que nous avons fait. Alors nous l'avons fait d'abord parce que c'est plutôt dans ce sens que se situe la tradition dominante. Il me semble aussi que c'est plutôt dans ce sens que va la majorité des professeurs de philosophie, mais on n'est pas obligé de suivre la majorité, bien entendu, et je pense que la majorité y est attachée pour des raisons qui nous ont paru bonnes, dont la principale, c'est que, comme il s'agit toujours, malgré la création de la spécialité humanité, littérature et philosophie, d'un enseignement qui ne prolonge pas un enseignement des classes précédentes, qui ne s'inscrit pas dans une progression sur deux ou trois ans, mais qui est supposé donner l'occasion à tous les élèves de la terminale générale et avec des horaires moindres, des programmes plus légers, tous les élèves de la voie technologique d'avoir une entrée dans la philosophie, il nous semblait que c'était le meilleur moyen de marquer ce caractère singulier de l'enseignement de la philosophie que de conserver cette orientation.
Laurence Lacroix, ça veut dire que cette liste sèche, c'est une liste dans laquelle vous faites des choix?
Alors... oui, qu'est-ce qu'on entend par choix? C'est
des
un programme.
De notions, voilà. Vous allez privilégier, étudier. Est-ce qu'on peut faire tout ce programme?
Alors, voilà, parce que c'est un programme. Donc, logiquement, toutes les notions doivent être étudiées.
Et c'est bien le problème.
C'est vrai que...
La liste a été allégée.
On va être sur un tronc commun de 4 heures d'enseignement de la philosophie, donc 4 heures par semaine. C'est l'actuel temps que l'on a pour la terminale terminale ES. Et donc, sur la terminale ES, on avait calculé à peu près, on doit avoir 24 notions. Là, on en a 21, donc c'est vrai qu'il y en a moins. C'est vrai que s'il y en avait encore moins, ça serait bien. Parce que la difficulté, c'est que on peut pas traiter toutes les notions individuellement. Du reste, c'est pas recommandable. Et donc, certaines notions vont être traitées de manière transversale, ce qui parfois est pas toujours compris de la part des élèves.
Surtout dans la perspective de l'examen du bac. On pense aux élèves qui passeront le bac demain. Et puis, avec ce nouveau bac en 2021, qui n'auront pas pu, voilà, comme ça arrive souvent, étudier complètement toutes les notions. Et ça peut tomber. Alors, comment on répond à cette inquiétude des élèves ?
Alors, ben, c'est une réelle inquiétude, à la fois des élèves et à la fois des enseignants. Alors, du coup, ça pose quand même un problème quant à la nature même du programme. Comment doit-il être envisagé ? Est-ce qu'il doit être directif ou pas ? Et c'est vrai que le programme qui nous est proposé n'est pas directif en termes de l'examen final. C'est-à-dire qu'il nous laisse véritablement la liberté de construire le cours comme on l'entend. Maintenant, j'ai quand même remarqué qu'on a une liste de repères et que les repères, quand même, nous donnent les grandes problématiques que nous devons
traiter. Quels sont-ils, ces repères ?
Alors, les repères, nous les avons ici. Donc, par exemple, on a concept, image, métaphore, objectif, subjectif, intersubjectif, ressemblance, analogie, universel, général, particulier, singulier, vrai, probable, certain, voilà. Et donc, autour de ces repères, c'est vrai qu'on peut voir, ou en tout cas, ça aide le professeur à pouvoir construire...
ça, c'est ce qui est transversal.
Voilà, une problématique, j'ai envie de dire, générale, qui rentre quand même dans les apprentissages de la philosophie. Dans les outils et les armes qu'un étudiant doit avoir lorsqu'il apprend la philosophie. Donc je me dis cette grande liberté, elle est quand même cadrée sans pour autant que ce cadrage soit directif. Ce qui là encore laisse à l'enseignant la possibilité de construire la manière par laquelle il va élaborer son cours et par laquelle il va guider ses élèves dans l'apprentissage quand même, et c'est ça qui me paraît extrêmement important, dans l'apprentissage d'un esprit critique, dans la capacité d'aborder une question. Et c'est là où j'aimerais revenir sur l'extrait que vous avez donné. Voilà.
Du documentaire.
Exactement. Parce que c'était un sujet visiblement qui portait sur le désir. Il a été traité. Il a été traité avec des moyens. Donc les élèves ont étudié des auteurs au programme. Ils ont tenté de construire leur problématique.
Karl Marx.
Voilà.
On a dit qu'il allait peut-être sortir des auteurs étudiés. Hein, cette année, ça a fait partie des polémiques
qui ont
émaillé.
Beaucoup
de polémiques. Oui, on va y revenir.
Et donc, en même temps, ils ont été heureux. Enfin, il y avait un vrai bonheur d'avoir pu construire leur copie, leur propre copie, et d'avoir pu penser à un sujet et d'avoir pu écrire. Et je trouve que déjà rien que là, l'élève qui disait peu importe, même si j'ai 4, je suis heureux de ce que j'ai fait, je trouve qu'il y a un vrai succès. Et donc je pense que là, la matière a réussi ce qu'elle devait enseigner.
Oui, la philosophie,
le plaisir de penser, le plaisir d'écrire.
Peut rendre heureux.
Exactement.
Et voilà. On le voit d'ailleurs avec cet engouement pour la philosophie aujourd'hui, qui parfois peut être non pas étudié, mais pratiqué en atelier dès l'école primaire. Il y a un film de Frédéric Lenoir qui est sorti au mois d'avril, l'atelier des petits philosophes. Alors sur les polémiques sur le programme ou les discussions, on a salué l'entrée de Simone de Beauvoir parmi les auteurs dont on allait parler.
Simone de Beauvoir était déjà.
Alors moi j'ai vu que ça avait été noté par des observateurs. J'ai pas regardé finement tous les programmes des différentes générations, mais aussi on a eu peur que la psychanalyse sorte des notions étudiées. Des enseignants, Karl Marx, des notions entières. Est-ce que, comme pour faire des choix entre des choix horaires entre les disciplines, là aussi il faut sacrifier des notions. Comment ces choix, Philippe Reynaud, sont opérés ? Est-ce qu'on les fait en fonction de l'air du temps, de la société d'aujourd'hui, des questions qui la traversent ? Finalement, c'est très important ce programme parce qu'il donne une idée des questions qu'on demande aux jeunes gens, alors ceux qui sont dans les bacs concernés, aux jeunes gens d'étudier et d'intégrer dans cette année si spécifique qu'est l'année terminale.
On ne peut pas dire qu'on le fait à partir de l'ère du temps, ce serait quand même pas raisonnable et pas très philosophique. Alors pour reprendre une vieille formule célèbre de Jaurès, je crois qu'on part de l'idéal pour aller au réel. Donc en l'occurrence, aussi bien d'ailleurs le groupe d'experts que le CSP sont partis d'une idée générale de ce que doit être l'enseignement de la philosophie, pour considérer ensuite ce qu'il peut être dans un monde avec les élèves tels qu'ils sont, et aussi avec la culture contemporaine, le débat public contemporain tel qu'il est. Alors, ça fait bien évidemment que on est conduit nécessairement, d'une part, à introduire de nouveaux auteurs et même éventuellement de nouvelles notions. De nouveaux auteurs, nous avons introduit des auteurs chinois, indiens. Nous avons introduit
Zhuangzi, j'ai vu, auteur chinois.
Oui. Nous avons introduit Maïmonide, nous avons introduit également Iris Murdoch, ce qui nous a été reproché.
Oui, j'ai vu cette polémique aussi.
Je vais revenir sur ce point. Et nous avons choisi de n'éliminer personne chez les auteurs. Alors, sur les notions, comme on est passé de 28 ou 24 notions à 21, il fallait évidemment faire des choix, et tous les choix sont l'objet de discussions infinies, si vous voulez.
C'est un beau sujet philosophique, d'ailleurs.
De discussions infinies, dans lesquelles je dirais qu'il y a parfois des procès d'intention, des procès de tendance qui sont pas très raisonnables et qui reposent sur de fausses habiletés. C'est-à-dire que, bon, il n'y a jamais eu d'intention d'exclure la psychanalyse ou d'exclure les références à la tradition marxiste. Par exemple, nous avons maintenu la notion de travail,
oui,
par exemple, sur laquelle
travail,
il est difficile de dire quelque chose sans passer par Marx.
Et difficile de dire qu'elle n'est pas contemporaine, qu'elle n'a pas d'actualité.
On pouvait aussi, si on aurait très bien pu dire qu'il y avait d'autres notions qui pouvaient s'y substituer, mais en l'occurrence, nous l'avons conservée. Nous n'avons pas exclu la psychanalyse, mais il y avait nécessairement des discussions, par exemple dans la proposition de nos collègues du groupe d'experts était présent l'idée de Dieu qui a soulevé pas mal de discussions. Bon, là, si vous voulez, je crois vraiment que tous les choix seront toujours discutés. Si vous le permettez, je voudrais dire un mot sur la question des auteurs en particulier. La liste d'auteurs n'a pas cessé d'augmenter depuis des décennies. On est parti d'une situation d'origine dans laquelle il y avait un corpus relativement restreint aux grands auteurs classiques, avec d'ailleurs l'habitude qu'avait l'inspection générale de désigner certains par une astérique, ce qu'on appelait les auteurs à étoiles, pour montrer qu'ils
étaient plus importants que d'autres.
Que tous les auteurs sont égaux, mais certains étaient plus égaux que d'autres. Bon, cette pratique a disparu, et donc on est devant une liste qui est en voie d'expansion, peut-être excessive. Comme personne ne nous a demandé d'alléger la liste d'auteurs, y compris dans le groupe d'experts, nous n'avons pas allégé. En revanche, nous avons pris l'initiative d'introduire quelques auteurs nouveaux pour faire droit à des considérations qui sont pas directement philosophiques, mais qui ne sont pas indifférentes pour l'ouverture culturelle de cet entraînement.
Alors, une ouverture culturelle, davantage d'auteurs, un peu moins de notions. Laurence Lacroix, je vous pose la même question qu'à Philippe Reynaud. En quoi des nouveaux programmes et une manière aussi de les aborder, pour vous qui enseignez la philosophie en classe, peuvent correspondre à un moment, à des élèves d'aujourd'hui, de ce monde contemporain, ceux qui passeront le bac en 2021 pour le nouveau bac, par exemple?
Alors, pour vous répondre, moi, je reviendrai justement sur la liste des auteurs. Mm-hmm. Moi, je suis, enfin, quand j'ai vu ce nouveau programme, j'étais absolument ravie de voir justement qu'elle s'enrichissait, qu'elle s'ouvrait au monde aussi, cette ouverture sur la philosophie chinoise, hindoue, me paraît essentielle parce que on a affaire aussi à un multiculturalisme dans nos classes et donc que la philosophie prenne en charge aussi un nouveau regard sur le monde, qu'elle présente d'autres cultures que notre propre culture européenne, ça me paraît très important, vraiment. Ensuite, je suis femme et l'ouverture de la liste aux femmes, je dis oui.
À plus de femmes
et encore des femmes, voilà. Il y avait Hannah Arendt, Simone Veil, oui, mais et alors moi j'ai juste peut-être un petit regret, mais voilà.
Exprimez-le, c'est voilà, le moment.
Moi Judith Butler me paraissait bien, mais il me semble que on peut pas mettre d'auteur vivant. C'est ça, c'est ça.
Philippe Reynaud,
ça oui. Se fait pas, non.
Ça Judith se fait Butler. Pas. Voilà, mais Judith Butler. Enfin, il me semble que sur la liberté d'enseignement aussi avoir une liste très large, d'abord nous donne des idées et ensuite ça nous permet d'aller chercher ce qui nous intéresse vraiment chez des auteurs. Donc tous les auteurs ne pourront pas être travaillés, c'est une évidence.
Oui.
Mais certains courants peuvent être privilégiés. C'est vrai qu'on a peut-être aussi regretté dans mon établissement l'absence, par exemple, des matérialistes. Alors moi, je trouve que c'est bien parce que ça fait parler, quoi. Voilà, les matérialistes français.
Alors. N'est-il pas plus facile, quand on est une enseignante expérimentée, de se saisir de ces nouveaux programmes et de faire ces choix qui sont lourds, parce que ce sont des choix pour le baccalauréat, il est extraordinairement important pour les élèves, pas seulement d'avoir le bac, mais aussi d'obtenir des mentions. Donc vous avez un certain confort dans votre enseignement du fait de votre expérience, donc c'est plus facile.
Je pense que tous les ans, c'est le challenge d'un enseignant. C'est d'amener ses élèves à penser, à construire une pensée, voilà, parce que c'est ça aussi qu'ils amèneront dans l'enseignement supérieur, de leur donner une culture et en même temps de traiter le programme et de les intéresser de telle sorte que ils poursuivent, j'ai envie de dire, cette manière de penser, cet intérêt, cette curiosité, cette ouverture après leur année de terminale. Donc c'est vraiment un nœud complexe qu'il faut réussir tous les ans. Et donc, je pense que
ça reste compliqué,
voilà.
Et toute dernière question concernant la culture générale, puisqu'on voit le terme humanité arriver au lycée avec la littérature et la philosophie, enseignement de spécialité en première et en terminale, puis la philosophie 4 heures pour tout le monde, une espèce de tronc commun de philosophie. Est-ce que l'idée, c'est de donner aussi une culture philosophique donc, qui peut commencer dès la première, y compris à des élèves qui sont plutôt scientifiques, mais qui peuvent prendre cette spécialisation. Et est-ce qu'on fait de l'interdisciplinarité, puisqu'on étudie en même temps avec le même enseignant la littérature et la philosophie, par exemple ?
Pas tout à fait, puisqu'en fait, ces enseignements humanité, littérature et philosophie seront assurés en même temps par les professeurs de lettres et par les professeurs de philosophie. Donc, au contraire, il y aura deux professeurs sur cet enseignement, avec autant que possible un équilibre strict du temps entre les deux.
Diviser en deux disciplines, finalement, quelque chose qui devait être une seule discipline, ce n'est pas rater l'occasion de faire sens, de faire culture et de faire dialoguer des matières qui ont plein de choses à se dire.
Il y a deux disciplines ou deux groupes de disciplines, mais il y a un seul programme. Et on imagine quand même que les professeurs vont travailler ensemble, mais dans l'état actuel du système éducatif et du monde éducatif, l'idée de créer ex nihilo une discipline nouvelle en disant que ça sera enseigné par qui voudra, c'est quelque chose qui était absolument impossible. Don't even think about it. Je crois que c'était la sagesse et la prudence qui allait dans ce sens. Ça n'est pas tout à fait non plus d'ailleurs de la La culture générale, c'est très bien, mais là, c'est quelque chose qui est centré quand même sur deux domaines particuliers, qui sont la littérature et la philosophie. Les élèves et les professeurs sont invités à penser leur relation autant que possible, et sont invités à considérer, j'ai envie de dire, que d'un côté la littérature pense et que d'un autre côté la philosophie est écrite. Enfin, c'est quelque chose qui devrait apparaître, et ce que nous avons pensé, c'est que à partir d'un corpus littéraire et philosophique, on pouvait aborder un certain nombre de grandes questions qui ne sont pas exactement les mêmes que celles du programme de philosophie de terminale.
Laurence Lacroix, c'est ce que vous allez faire, essayer de réfléchir à ce programme avec votre collègue de lettres, ou est-ce que on peut aller plus loin et prolonger les liens entre des disciplines qui ne sont des disciplines que dans le monde scolaire, à l'extérieur.
Oui.
On lit l'un ou l'autre, on pense quand on lit, et on lit quand on lit de la philosophie, et c'est parfois très très bien écrit.
Alors, je trouve que on a beaucoup à s'apporter, justement, dans ce travail en commun. La littérature a à nous apporter des fois, enfin, en tout cas pour moi, là je parle d'expérience personnelle, une certaine approche des textes, un certain aussi renouvellement dans les textes que l'on peut étudier. On découvre beaucoup avec nos collègues de littérature. Et en même temps, la façon que nous avons, nous, d'aborder ces textes-là, enrichit aussi l'approche littéraire. Donc je trouve que c'est très complémentaire. Et si ça nous apporte à nous, déjà enseignants, je pense que ça apportera énormément aux élèves.
Merci, on va passer à la deuxième partie de l'émission Colère autour du nouveau bac.
Vous écoutez
écouté France Culture, Être et Savoir. Aujourd'hui, le nouveau baccalauréat à l'épreuve. Nous avons parlé dans la première partie des nouveaux programmes de philosophie. Et maintenant, nous abordons cette question de la grève des enseignants, grève de correction du baccalauréat. Bonjour Thibaut Noël Artaud.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie, vous aussi, dans l'Académie de Créteil en Seine-et-Marne, dans le même établissement que Guillaume Tardy. Bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez, vous, l'histoire, géographie. Et demain, au moment des premières épreuves du baccalauréat, ou des épreuves de philo, vous allez faire grève.
C'est ça.
Oui, oui, nous allons faire grève parce que si au départ, nous avons été plutôt... enthousiasmé à l'idée d'une réforme qui paraissait ambitieuse et qu'on appelle de nos voeux, on a compris au fur et à mesure que le contenu de la réforme s'est dévoilé, qu'elle dissimulait des intérêts qui nous semblent purement comptables et qui vont nuire à l'éducation des élèves pour les années à venir.
Et, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans votre quotidien?
Alors, ça veut dire concrètement, c'est que... En fait, la réforme du lycée met fin à l'existence des trois séries L, E, S et S. Et ces trois séries-là faisaient que la moyenne des élèves par classe, en première et en terminale, était entre 27 et 28 élèves par classe. Parce que l'existence des séries permettait, en fonction du nombre d'élèves, d'avoir un nombre inférieur au plafond de 35. Et en fait, l'existence des enseignements de spécialité rend possible l'apparition d'un tronc commun qui permet automatiquement d'arriver au plafond de 35 élèves pour tous les enseignements dans le tronc commun. Donc de ce point de vue-là, c'est une régression énorme pour notre métier. Personnellement, j'enseigne donc la philosophie et cette année, j'avais que des classes qui étaient entre 27 élèves. Alors, je ne dis pas que ce nombre-là est une condition suffisante pour que l'enseignement soit de qualité, mais c'est la condition moins nécessaire pour que un enseignement véritable puisse avoir lieu, pour qu'un apprentissage aussi de qualité existe, que les élèves puissent participer durant le cours. Et du coup, on est mobilisé pour d'autres raisons. Là, j'argumente sur ce premier point contre cette réforme parce que il nous semble vraiment qu'elle va dégrader les conditions d'apprentissage et d'enseignement. Or, un cours, c'est une attention conjointe des élèves et des enseignants, et ça nous semble mis à mal par la réforme.
Alors. Il y a cette question que vous soulevez du nombre d'élèves par classe qui serait plus haut. On a avec nous également Frédéric Rollet, qui est secrétaire national du SNES. C'est le premier syndicat du second degré. La question qu'on doit vous poser, c'est là, vous sortez un petit peu l'arme atomique, la grève dans la correction du bac, même si Jean-Michel Blanquer dit qu'il n'est pas inquiet, il l'a redéclaré encore vendredi matin. C'est quand même quelque chose qui peut aussi effrayer énormément les familles. D'ailleurs, il y a un des syndicats lycéens qui se dit très inquiet, c'est le SGL qui dit « ne nous trompons pas de cible » et qui se sent donc visé. Que répondez-vous à ça, Frédéric Rollet ?
La première chose, c'est que ça vient au bout, cette décision d'une grève le premier jour des surveillances des épreuves du baccalauréat, ça vient au bout d'un long processus. Vous avez eu des manifestations nationales, vous avez eu des grèves, des discussions, des demandes auprès du ministère d'être reçues, sans que jamais le moindre dialogue soit possible. Alors, à un moment, la profession nous dit s'il faut se faire entendre en usant d'une modalité qui est exceptionnelle, puisqu'effectivement, ça fait 16 ans que nous n'avons pas appelé à la grève d'une surveillance pendant les épreuves du baccalauréat, c'est le ministre qui emporte complètement la responsabilité. J'ai écouté ce que vous le précédent débat sur la philosophie. Ce qui me frappe dans la réforme, au-delà de ce qui vient d'être dénoncé sur les aspects quantitatifs, et budgétaire, c'est la vision idéologique aussi. Pour qui enseignons-nous et avec quel objectif? Alors, on voit bien à travers les programmes de philosophie qu'on va, avec cette espèce de indétermination, notamment entre l'absence de lien entre les épreuves de l'examen et puis le programme, qu'on va favoriser ce que Bourdieu appelait les héritiers, enfin les élèves qui ont une grande aisance dans l'écrit, qui ont des repères culturels qui ne sont pas procurés par l'école, mais qui viennent d'ailleurs, de la famille notamment. Et toute la réforme est conçue comme ça. Dans les enquêtes qu'on a pu faire, on voit que les bons élèves, entre guillemets, ne se sont pas trompés. Ils ont choisi, en général, une triplette, puisqu'il faut choisir en première trois enseignements spécialités, qui correspond en gros à ce qu'est la filière S maintenant dans la voie générale. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu désarmés, qui ne savent pas trop, et qui risquent de se voir barrés au moment de choix dans l'enseignement supérieur par Parcoursup. Alors, il y a aussi d'ailleurs une réflexion qui est très absente, et c'était aussi présent dans le débat précédent, c'est la question de la voie technologique. On sait quel rôle elle joue dans la démocratisation. Là, il en est très peu question. Le ministre, d'ailleurs, s'y intéresse assez peu. Et on a déjà une désaffection. Là, on voit qu'on a moins d'inscriptions des élèves en première technologique, dans les séries technologiques. C'est aussi significatif.
J'aimerais rappeler que, en fait, en France, il y a plus de bacheliers en 2019 qu'au début des années 80. C'est parce que les bacs se sont multipliés, voie technologique évidemment, et surtout voie professionnelle. Qui représente presque un tiers des bacheliers. Guillaume Tardy, vous enseignez, je l'ai dit, l'histoire, géographie. Vous aussi, vous allez participer à cette grève et donc ne pas assurer la surveillance de l'examen demain. Dans certains établissements, la mobilisation s'est opérée, dans d'autres, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui vous a, vous, mis en mouvement ?
Aujourd'hui, ce qui prédomine chez les collègues, puisque nous venons d'un lycée qui n'avait pas de tradition syndicale, ce qui prédomine véritablement, c'est la colère et le sentiment d'être méprisé. L'objectif, c'est que suite à ces 8 mois de mobilisation où on a été extrêmement mobilisé en interne, on a eu des discussions avec nos hiérarchies, avec les inspections. En fait, à chaque fois qu'on a tenté de poser des questions, on a fait face finalement à des personnels qui n'avaient pas les réponses. Au niveau local, les mobilisations se sont faites également. On est beaucoup intervenu auprès des parents d'élèves, toujours sur des modes non violents et souhaitant.
Alors, qu'est-ce que c'était comme type de mobilisation, des grèves ou des événements dans le lycée?
Des journées lycées morts, des manifestations dans différents lieux. Il y en a eu partout en France qui ont souvent été beaucoup relayées par la presse locale et régionale. Plus rarement par la presse nationale, mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les collectifs d'enseignants qui se réunissent régulièrement en Assemblée générale sont extrêmement nombreux. Qu'on parle des stylos rouges, de la chaîne des bahuts, on a effectué un certain nombre de manifestations devant les rectorats, mais finalement, on nous dénie aujourd'hui une expertise de terrain. Alors certes, les programmes ne peuvent pas être définis totalement.
Qui vous l'a dénié, le ministère ?
On a ce sentiment et on a véritablement cette on entend ce discours finalement qu'à la fois on veut valoriser notre fonction, on nous fait des compliments encore il y a quelques jours de la part de certaines communications du ministère, mais que dans la réalité on nous dénie cette expertise. En fait, ce qu'on souhaiterait véritablement, c'est que on souhaiterait du temps, on souhaiterait un moratoire sur cette réforme du baccalauréat et que véritablement on en arrive à une co-construction des programmes et des réformes qui puisse faire toute sa part à nos représentants, que nos représentants syndicaux puissent être reçus, qu'ils soient entendus. Aujourd'hui, pour les programmes comme pour la réforme, la voix des enseignants qui passent par ces syndicats n'est pas entendue, n'est pas reçue. Et ça choque énormément la profession.
Frédéric Rollet, vous l'avez dit comme Guillaume Tardy, un ministre qui reste sourd, des services ministériels qui ne vous reçoivent pas. Guillaume Tardy a parlé des médias et de leur rôle, des médias nationaux. Est-ce que vous avez l'impression que cette mobilisation des enseignants n'a pas été suffisamment relayée par les médias nationaux, les grandes radios, peut-être aussi par France Culture, les grandes chaînes de télé?
Alors bon, il faut évidemment différencier les types de médias, mais ce qui est un peu dommage, c'est que on ait eu une médiatisation très forte du jour où a été annoncée justement cette grève le 17 juin avec toute la charge symbolique qu'elle revêt, alors que encore une fois c'était uniquement l'aboutissement de toute une série d'alertes qui avaient été faites auparavant. Et là encore, vous savez que normalement, réglementairement, quand il y a un préavis de grève, le ministre concerné doit prendre contact et ouvrir des discussions pour essayer de faire lever ce préavis. Je puis vous assurer que nous n'avons aucun signal de la part de Jean-Michel Blanquer, ni même de son cabinet. Donc, on a un peu trop le sentiment, quelquefois dans les médias, c'est pas vrai pour tous, encore une fois, qu'on ne s'intéresse à des problèmes de fond dans l'éducation que quand il y a un événement un peu spectaculaire, alors que ce qui motive la majorité des personnels, c'est leur travail quotidien, et se dire on est inquiet là de la façon dont les élèves vont pouvoir travailler, dont les emplois du temps vont être construits, du sort de certaines disciplines, du fait que le nouveau bac est une espèce de grande entreprise chronophage où on va évaluer tout le temps, il faut évaluer les enseignements spécialité fin mars, enfin bon, quand on enseigne, on se demande, on peut jamais avoir fini un programme fin mars, enfin c'est donc on a une désorganisation complète des établissements, et puis au bout de course, un bac plus lourd et qui sera beaucoup plus marqué localement, donc plus inégalitaire.
Puisqu'il y a plus de contrôle continu, hein, pour préciser un peu vos propos, Frédéric Rollet. Alors, Thibaut Noël-Arthaud, vous avez dit quelque chose qui m'a extrêmement intéressée, c'est l'idée que les classes vont être plus chargées. En même temps, on sait qu'il y a eu des mesures pour faire des CP et des CE1 à 12 élèves dans l'éducation prioritaire, et que souvent, enfin, même toujours, les recherches montrent que en France, on consacre beaucoup de budget aux élèves du secondaire et particulièrement du lycée, et beaucoup moins à ceux des petites classes où le destin scolaire semble se forger tout de même davantage. Alors on peut peut-être prendre un petit peu au lycée pour donner, même si ça se passe pas exactement comme ça, aux élèves plus jeunes qui en ont le plus besoin. Oui.
Alors,
vous n'êtes pas sensible à cet argument?
Si, bien sûr. Mais je dirais deux choses. La première, c'est que si en effet la réforme prévoit que en CP et CE1, les classes soient dédoublées, mm-hmm, dans les quartiers les plus difficiles, dans les zones les plus difficiles. Il faut, c'est comme les médecins, il faut 10 ans, hein, pour arriver jusqu'au lycée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 10 années qui nous séparent de ces élèves qui seront mieux formés? Donc là, cette question-là, elle n'est pas du tout résolue. Et quand on enseigne, on sait que les élèves ont besoin d'une stimulation intellectuelle. On a un effort à faire réel pour réussir à capter leur attention. Et il est difficile de capter l'attention d'un adolescent. Et pour cette raison-là, les classes à 35 ne sont pas du tout compatibles avec ce travail-là qu'on essaye de faire.
Avec les élèves d'aujourd'hui?
Oui, alors je dirais peut-être pas ça comme ça, mais en effet, la place des écrans dans la vie des adolescents, et je pense que les parents qui nous écoutent pourront le confirmer, est telle que leur attention est quand même un peu détournée, elle est peut-être un peu captée par d'autres sources que l'enseignant, et de ce fait, il est peut-être plus difficile pour nous aujourd'hui de réussir à capter l'attention de nos élèves et à les intéresser à des enseignements qui sont parfois un peu abstraits. Et donc pour cette raison-là, on ne peut pas accepter qu'il y ait encore plus d'élèves dans nos classes, sachant que la France est déjà le pays d'Europe, et même parmi les pays de l'OCDE, qui a le plus d'élèves par classe dans le secondaire. Donc même si le lycéen coûte cher, du coup c'est ça la question, pourquoi le lycéen coûte cher alors que c'est les classes en France qui sont les plus chargées, et on sait aussi par ailleurs que les enseignants en France sont plutôt mal payés. Comment se fait-il que le lycéen coûte cher?
Il y a beaucoup d'options qui
voilà
sont proposées.
Voilà, ce qu'on pouvait lire à travers le rapport de la Cour des comptes de 2015, c'est que c'est en France aussi que les élèves ont le plus d'heures de cours dans l'année. Donc la réforme, on aurait aimé, en tout cas c'est mon cas, qu'elle travaille aussi la question des rythmes scolaires et qu'elle s'intéresse à la pertinence des cours qui sont dispensés après 15h30, par exemple, de 15h30 à 17h30. Donc oui, la question du nombre est une vraie question qui ne se pose pas que pour les petites sections, que pour le primaire, mais qui se pose aussi aujourd'hui dans le secondaire.
Guillaume Tardy.
Notre priorité, c'est d'aboutir véritablement à une égalité des territoires et une égalité entre les lycéens. Parce que concrètement, les choix des spécialités, en tout cas les spécialités qui sont proposées aujourd'hui, certes, en centre-ville, dans les grandes métropoles, on peut organiser des services dans lesquels les lycéens iraient d'un lycée à l'autre. Mais dès qu'on passe en banlieue, dès qu'on passe dans des espaces périurbains,
où
nous enseignons effectivement, où la dépendance à l'automobile, au transport en commun est beaucoup plus forte. En fait, ces choix se font véritablement par défaut. Et ce qui nous choque véritablement, c'est cette précipitation dans laquelle tous les personnels vont entrer dans cette réforme. Je crois qu'on peut aussi estimer qu'une réforme de l'éducation, une réforme du lycée, du baccalauréat, ça doit prendre le temps. On a connu des expériences par le passé, la commission Tello en 2004. On a aussi d'autres exemples en Europe.
Une consultation d'un million d'acteurs.
Voilà,
d'un
million d'acteurs, alors qu'il peut se faire par des inspecteurs pédagogiques régionaux, qui peut se faire par différentes manières. Mais aujourd'hui, les consultations qui ont été faites sur les programmes n'ont pas été entendues. Et je crois que les syndicats l'ont bien manifesté. Autrement dit, ce qu'on veut véritablement, c'est bien entendu garantir des effectifs qui permettent aux élèves d'apprendre convenablement. Et je crois que toute famille est satisfaite quand elle a son enfant dans une classe où le chiffre reste autour d'une trentaine d'élèves, quand elle a des professeurs qui sont diplômés, certifiés, agrégés, qui sont compétents et pas des vacataires qui sont embauchés à l'appel depuis quelques années. Je crois qu'on a besoin d'une éducation qui véritablement soit ambitieuse et qu'on arrête le marketing politique autour d'une réforme qui véritablement suscite une grande méfiance.
Marketing politique, je ne sais pas. En tout cas, une réforme qui a suscité des contestations. On voulait en parler à la veille du bac et je voulais aussi parler de l'après-bac. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de ce formidable documentaire « Les défricheurs ».
Est-ce que tu aurais un conseil pour surtout pour les élèves qui sont en ES et qui sont un peu perdus et qui n'ont pas trouvé encore leur méthode de travail?
Au terminal, je sais pas, essayer d'aller à la bibliothèque.
À la fac, j'étais comme au lycée. Genre, je travaillais vite fait, je lisais vite fait mes cours, je me disais, vas-y, je comprends. Mais après, en fait, ça marche pas parce que au lycée, t'as tout le temps des cours. Tes profs, tout le temps, ils te rabâchent les choses. Alors qu'à la fac, t'es tout seul. Ton travail, tu le fais tout seul. Ton cours, tu le fais tout seul. Même nous, on n'a pas, par exemple, en prépa, chaque semaine, ils ont des exercices. Chaque semaine, ils ont des choses à faire. Nous, même ça, t'as pas. Nous, on n'a pas de notes. Nos notes, c'est un galop d'essai. En gros, c'est un partiel blanc. Ton partiel blanc et ton partiel, c'est tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de rattrapage. Si tu as raté ton partiel, c'est mort. Donc, après, c'est chaud. Bon, la L1, je l'ai raté. Je l'ai refait. Et là, je suis en deuxième année. Donc, voilà.
Discussion très intéressante entre des élèves qui vont passer le bac et des élèves qui sont déjà des étudiants et qui racontent leurs difficultés parce que finalement, la difficulté, elle arrive là. Et puis, le bac, on le sait, aujourd'hui, n'est pas le véritable enjeu de la terminale. C'est Parcoursup qui occupe tant d'élèves encore et qui les a beaucoup occupés depuis janvier. Alors, pour rester déjà sur la question de Parcoursup, Frédéric Rollet, est-ce que finalement, le bac, le programme de terminale, bon, c'est important, mais cette... Voilà, ce lien avec l'enseignement supérieur, dont on voit qu'il a été difficile, ce n'est pas ça le véritable enjeu pour les familles.
Si, vous avez raison, parce que on a vu avec Parcoursup l'an dernier tous les dysfonctionnements, on a vu certains élèves barrés dans les choix qu'ils pouvaient faire avec tout un discours lénifiant sur le fait, oui, mais on va mettre ensuite des dispositifs de rattrapage pour ceux qui auront le wifi. Bon, et on sait que les universités n'ont pas les moyens de le faire. Donc on a une sélection accrue. On sait que effectivement les taux d'encadrement à l'université sont pas les mêmes, qu'on manque cruellement de personnel, et que l'autonomie, c'est quelque chose qui se construit, c'était dit là par une des jeunes. Bon, là, on est un peu livré à soi-même, et si on n'a pas derrière tous les outils et toute la construction nécessaire, on peut évidemment rater son année de fac. Donc il y a un gros travail à faire sur ce sujet, mais ça veut dire aussi abonder les moyens de l'enseignement supérieur si on veut une véritable démocratisation.
L'éducation, une question de moyens, en tout cas beaucoup pour votre syndicat, Frédéric Rollet. Thibault Noël Artaussure, cette question de la méthode, parce que c'est ce qu'on entend aussi dans cet extrait, des élèves qui, malgré tous vos efforts d'enseignants, alors ce ne sont pas vos élèves, ce sont des élèves de la ville de Saint-Denis, ont l'impression d'arriver dans les études supérieures en prépa ou à l'université assez peu préparés et démunis face à ce qu'on leur demande.
Je ne sais pas, moi j'ai quand même le sentiment qu'on essaye d'émanciper intellectuellement les élèves en leur... En les encourageant vraiment à devenir des lecteurs, et d'être capable à la fin de lire seul n'importe quel livre. Et ça, il me semble que c'est ce qu'on attend aussi d'élèves à l'université. Donc, encore une fois, je ne sais pas si on a encore les bonnes méthodes. On les cherche. L'ambition, elle est celle-ci, hein, de réussir à émanciper intellectuellement nos élèves. Mais encore une fois, je reviens là-dessus, pour qu'on y parvienne, il ne faut pas qu'on dégrade encore une fois les conditions d'apprentissage. Hein. Sinon, on n'y arrivera jamais.
Et on rappelle que vous êtes très mobilisé et donc gréviste de la surveillance.
Mais c'est la boule au ventre qu'on fera cette grève. Encore une fois, j'ai préparé toute l'année mes élèves à l'examen de philosophie et demain, je n'irai pas surveiller. Mais j'ai le sentiment qu'on fait cela avec conscience et que qu'on n'a plus le choix maintenant que d'aller jusque-là pour défendre l'éducation et pour nous faire entendre de notre ministre.
Alors, par ailleurs, les élèves pourront repasser leur épreuve à un autre moment, on l'imagine. En tout cas, le ministre a mobilisé des personnels pour vous remplacer. Hein. C'est ce qui arrive. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'était pas inquiet aussi. Guillaume Tardy, sur cette question de l'après-bac, qui est finalement la grande marche, on a l'impression, à monter pour les jeunes gens d'aujourd'hui, avec beaucoup d'échecs, en tout cas beaucoup de questionnements, parce que ce ne sont pas forcément des échecs, que de changer d'orientation pendant sa première ou sa deuxième année d'études, mais ce décalage finalement entre le lycée et l'après.
Le décalage existe parce que les inégalités sociales s'expriment à l'école. Et si l'école a
c'est
pour ambition...
C'est entièrement une question sociale. Il n'y a pas une question de...
Non, je pense que effectivement, c'est l'échec des élèves, c'est l'échec de l'institution. Enfin, il faut être lucide. On a les élèves qu'on mérite. Et je crois que une immense majorité des enseignants font vraiment tout leur possible pour que le bac soit obtenu, mais qu'il soit véritablement préparé à l'après-bac. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que par une formation de qualité des enseignants, par du temps d'apprentissage devant élèves avec des effectifs raisonnables, le fait d'avoir des moyens simplement pour pouvoir dédoubler des classes en langue, en sciences, ce qui n'est pas assuré aujourd'hui, parce que aujourd'hui on est en train de fermer le robinet pour les établissements. Chaque établissement doit négocier et batailler pour obtenir des heures. Eh bien, c'est par cela qu'on permet aussi de former les élèves correctement. Ce qui me paraît inquiétant, c'est que aujourd'hui l'innovation pédagogique elle vient du bas. L'éducation nationale ne se change pas par décret. Il faut véritablement que les personnels soient convaincus que les réformes sont justes, ambitieuses et qu'on ne soit pas simplement par une énième réforme. L'éducation nationale est une des parts de la fonction publique qui a été le plus réformée. Or aujourd'hui ce sont les enseignants qui vont prendre celle-ci ou une autre réforme en main. Et je crois qu'il faut arrêter les effets de manche. C'est à nous de changer l'école. Cette réforme-là, au mieux, est un coup d'épée dans l'eau. Et au pire, comme mon camarade le disait, elle va finalement aggraver les inégalités.
Ce sera votre conclusion. On voulait donc donner la parole à des professeurs mobilisés. Nous avons également, en début d'émission, évoqué les nouveaux programmes de philosophie avec Laurence Lacroix et Philippe Reynaud. Merci à eux. Merci Frédéric Rollet, Thibault Noël Artaud et Guillaume Tardy. On passe à la dernière partie de l'émission, la leçon de choses. « J'avais envie de voir ailleurs, nous avoue Jamy Gourmaud, pédagogue aux lunettes rondes, pédagogue des sciences qui a marqué des générations de jeunes téléspectateurs. Il a vécu une enfance contemplative, mais après tout, la science, c'est d'abord l'observation et ça commence quand le soleil se lève.
Alors, les levées de soleil, en fait, c'était pendant les vacances que l'on passait au bord de la mer, entre Saint-Jean-de-Mont et Noirmoutier. Et il se trouve que c'est une région, quand on s'aventure un petit peu dans les terres, eh bien, il y a un immense marais, ce qu'on appelle le marais breton-vendéen. Et mon père et mes frères étaient des... le sont d'ailleurs toujours. Mon père et mes frères sont des passionné de pêche, donc le matin, très tôt, c'était une des activités incontournables, on allait pêcher dans le marais. Et pour ce faire, eh bien, on se levait aux aurores, aux alentours de 5h30 du matin, et on partait, on s'enfonçait dans le marais avec nos cannes à pêche, et moi je passais beaucoup de temps à observer ce soleil se lever. Alors je dis le soleil se lever, mais accompagné aussi toute la nature qui se réveille. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai plutôt choisi de parler du lever du soleil plutôt que du coucher. Quand le soleil se couche, eh bien ma foi, la nature s'endort. Quand il se lève dans le marais, elle s'éveille. Alors elle s'éveille avec bien sûr la faune, la flore aussi, les odeurs, l'humidité.
Les sons.
Tous nos sens sont en éveil.
Alors, on ne sait pas grand-chose de vous, Jamy Gourmaud.
C'est bien, je ne sais pas.
Mais pour qui connaît l'émission C'est pas sorcier, et nous sommes nombreux, et désormais l'émission sur France Télévisions Le Monde de Jamy, on vous imagine volontiers comme un enfant espiègle et très curieux. Alors, était-ce le cas, ou pas spécialement, finalement?
Alors, pas spécialement. Je pense que j'étais un enfant assez secret, plutôt dans sa bulle. C'est-à-dire que je me débrouillais souvent tout seul. Et quand j'avais envie de faire quelque chose, je le faisais. Si personne ne me suivait, tant pis, je le faisais quand même.
Pas inquiet.
Voilà, pas inquiet du tout. Voilà, je m'amusais avec rien. Je pouvais rester des heures à observer une fourmilière, le vent dans les arbres. Voilà, donc je ne me posais pas beaucoup de questions, mais j'essayais de faire ce qui me faisait plaisir. Je pense que j'ai eu très tôt une personnalité, peut-être parce que très tôt j'ai porté des lunettes, et je devais être le seul dans ma classe à porter des lunettes. Elles étaient déjà rondes, d'ailleurs, mes premières lunettes, et j'en étais très fier. Alors que je pense certains enfants peuvent avoir un petit peu honte de porter des lunettes, d'être différent des autres. Moi, je sais que j'avais une certaine fierté à ne pas être comme les autres. Moi, il y a 3-4 bouquins comme ça qui m'ont marqué. Le tout premier, c'est un livre de Jean Raspail qui avait été prix du Livre Inter, d'ailleurs, au début des années 80, qui se souvient des hommes, qui est une fabuleuse histoire d'un peuple parti du Caucase, qui franchit le détroit de Bering, qui colonise l'Amérique. Et il faut imaginer que ce peuple, à chaque fois, se sépare en tribus. Et il y a toujours des tribus plus fortes qui chasse les plus faibles. Et on suit le parcours des plus faibles, de la plus faible, qui va descendre comme ceci le long de l'Amérique du Nord, puis de l'Amérique centrale, puis de l'Amérique du Sud, et finalement trouver une terre d'accueil là où personne ne peut plus aller et d'où personne ne peut plus les chasser, la Patagonie. Voilà, c'est un livre, vous voyez, je le raconte encore. Très tôt j'ai aimé voyager, très tôt j'ai eu envie de partir. Je me souviens quand j'étais enfant et qu'on partait en vacances, qu'on partait à 5h du matin pour traverser la France, mais j'avais une espèce d'engouement
de liesse de
fuir finalement l'endroit où j'habitais.
Mais qui vous plaisait pourtant cet endroit-là où vous habitiez?
Bien sûr, il me plaisait, mais j'avais envie de voir ailleurs. Je crois qu'il me plaisait parce que justement, je voyais ce qu'il y avait ailleurs.
Jamy Gourmaud vient de sortir un livre, je tiens à vous le signaler, Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, et c'est chez Stock. Je vous rappelle le titre du documentaire que nous avons évoqué, Les Défricheurs. Cela passera sur France 3 le 1er juillet, un petit peu tard dans la soirée, mais ce sera en replay. Je vous indique aussi la sortie d'un hors-série de la revue de la Société des agrégés. Extrêmement intéressant, il s'intéresse à la place des femmes dans l'enseignement supérieur. Une place encore un peu timide, pour le dire comme cela. Et la semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet tout à fait différent. C'est peut-être l'examen qu'on passe après le bac, c'est le permis de conduire. N'oubliez pas de nous podcaster. Bonne écoute de France Culture.